Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On en voit.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Nous sommes aujourd'hui avec Marion qui est responsable du pôle communication et événementiel à France Nature Environnement Isère et aussi Luna qui est service civique pour le festival du cinéma Nature et Environnement que cette association organise. Donc bonjour à vous les filles, comment ça va ?
Bonjour, eh ben, ça va super bien. On est contente d'être là.
Oui, oui, totalement.
Super. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et dire ce que vous faites chacune dans cette association pour le festival ? Voilà.
Eh bien, donc moi, je m'appelle Marion et je m'occupe de tout le service communication et événementiel. Et mon métier, c'est vraiment de parler de toutes nos activités au grand public, aux collectivités, aux élus, enfin en gros toutes nos cibles, et donc sensibiliser à la nature et à l'environnement par le biais de la communication. C'est très large.
Et toi, Luna, avec ton service civique, c'est quoi ta mission ?
Moi, du coup, je suis volontaire pour une durée de 8 mois et ma mission principale, ça consiste à de même sensibiliser via l'art. Du coup, sur les enjeux environnementaux avec le festival Cinéma Nature Environnement.
Et donc, pourquoi tu as choisi ce service civique ?
Je l'ai choisi parce que déjà, j'ai un peu un attrait pour la nature et l'environnement depuis toute petite. Je suis née dans une famille très, sensibilisée un peu aux enjeux environnementaux et aussi à d'autres enjeux, très mobilisée sur plein de sujets différents. Donc, pour moi, c'était de base quelque chose de plutôt intéressant en fait de vouloir approfondir mes connaissances dans l'art et surtout aussi dans l'environnement et parce que j'ai pour projet de me réorienter en communication et du coup je voulais faire quand même une mission qui s'apparente un peu à de la communication ou en tout cas à des sujets qui m'intéressent, donc l'art et l'environnement.
Donc une belle expérience qui combine tous tes intérêts.
C'est ça.
Et est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter peut-être un peu l'association FNU Isère. Bon, du coup, c'est peut-être plus toi, Marion, qui est apte à la présenter.
Alors, du coup, France Nature Environnement Isère, son ancien nom, c'était la FRAPNAP. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça parlera si vous avez eu des interventions dans vos écoles, dans vos classes, quand vous étiez petit et petite. Et donc, cette association, elle est déjà vieille puisqu'elle a plus de 50 ans. Et notre objet social, c'est de protéger la nature et l'environnement en Isère. Donc en fait, on le fait par plein de moyens et en plus, on ne le fait pas tout seul parce que on a l'antenne FNE à Grenoble pour la partie Isère. Mais on a aussi une quarantaine d'associations membres qui sont sur tout le territoire. Donc tout ça, ça représente plusieurs milliers d'adhérents. Et du coup, nous, à FNU Isère, on a une centaine de bénévoles et une dizaine de salariés. Et du coup, l'idée, c'est de à la fois préserver les milieux naturels en améliorant la connaissance sur ces milieux. Donc, on fait des inventaires, par exemple, sur les mares, sur les forêts, sur les zones humides, tout ça. Il y a aussi une grosse partie sensibilisation. Donc ça c'est les interventions dans les écoles, les animations nature, les sorties nature, parce que surtout voir la nature, on peut la voir au cinéma comme on va en parler juste après, mais aussi ce qui est, l'ADN de notre association, c'est d'aller dehors, d'observer et d'observer le vivant, se faire discret, tout ça. On a aussi toute une action de veille écologique, donc de surveillance un petit peu de tout ce qui est pollution, notamment grâce à notre site Sentinelle de la Nature, où n'importe qui peut nous signaler une atteinte à l'environnement, une décharge sauvage, une pollution de l'eau, une destruction d'espèces protégées, un projet d'aménagement illégal, tout ça. Et notre dernière action qui est assez forte, parce que on est des rares associations à faire ça, on représente la société civile. Donc en fait, on porte vraiment la voix de la nature dans les instances de concertation départementale, là où souvent tous ces projets qui peuvent avoir un impact sur l'environnement se décident en amont. Donc c'est important qu'une asso de protection de la nature soit représentée dans ces endroits-là.
C'est donc comme une mini ONG finalement. Votre association, elle a de multiples cordes à son arc et elle porte notamment le festival du cinéma nature et environnement. Alors comment est-ce qu'il est né ce festival ? Il me semble que c'est la 38e édition, donc il est vieux.
Ouais, il est bien plus vieux que moi du coup, je pourrais pas vous parler de la naissance, mais en tout cas il a beaucoup évolué cet événement, donc en creusant un petit peu l'historique auprès des anciens et des anciennes, je me suis rendu compte qu'il était, donc au départ il était sur 2 ans, c'était une biennale, donc on faisait pas ça chaque année. Et du coup, après, c'est devenu un événement annuel. Et il a eu plein de formes. Il est passé par Alpexpo à Grenoble, donc une énorme salle dans les années 80, 90. Il a même eu lieu en extérieur au parc Paul Mistral. Et du coup, aujourd'hui, on est retourné dans les salles de cinéma. Cette année, il se fait dans 3 salles, essentiellement au cinéma Le Club, qui est un cinéma d'art et d'essai qui produit vachement de festivals, et aussi à l'avant-scène à Saint-Égrève et à Visil, au Jeu de Paume, pour toucher à la fois les habitants qui sont un peu plus au nord de Grenoble et ceux qui sont un peu plus au sud.
Donc il est un peu éparpillé partout dans Grenoble et un peu autour. Et il aborde différents points de vue de la nature et de l'environnement. Donc autour de quelles thématiques il est structuré, ce festival ?
Et du coup, souvent on nous demande, est-ce qu'il y a un thème particulier cette année ? Et justement, nous, notre approche, en fait, c'est assez proche de l'approche vraiment globale aussi de France Nature Environnement. L'idée, c'est de parler vraiment de manière très large, parce qu'en fait, tout est lié. C'est-à-dire que la nature et l'environnement sont liés. Et en plus, on a quelque chose qui va impacter les deux. C'est un peu le fil rouge maintenant de nos dernières éditions, c'est le changement climatique. Et du coup, quand on s'intéresse aux espèces, avec des beaux films, tout ça, en fait, maintenant, on ne peut plus se passer de parler d'environnement et de regarder les choses à petite échelle, mais aussi à grande échelle. Donc, le festival, il va, un peu comme chaque année, il y a différentes thématiques qui reviennent. On va parler souvent de la flore, donc des plantes, des forêts, ça évolue en fonction de chaque édition. On va souvent aussi avoir des très beaux films avec vraiment un aspect très immersif, avec des espèces qu'on ne voit pas très souvent. Et après, on a des thématiques qui reviennent, comme l'agriculture. Là, cette année, on a l'agroécologie, les énergies. C'est assez large. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on essaie vraiment de varier les formats, de ne pas mettre que du documentaire, mais aussi de mettre de la fiction, des films d'animation et des films expérimentaux pour attirer un public plus large et surtout pour venir vraiment susciter l'émotion, en fait, à travers des fois de la fiction. Ça va pas être un documentaire, c'est une histoire qu'on nous raconte. Les films expérimentaux, il faut se laisser vraiment embarquer par quelque chose. C'est une expérience à vivre. Des fois, on comprend pas tout de suite. Puis il faut vraiment lâcher prise et se laisser vivre un peu l'émotion que le film dégage. Puis l'animation, moi, c'est un peu mes films préférés, j'adore. C'est aussi une autre manière de venir parler de sujets qui sont soit très beaux, soit des fois pas très faciles.
Oui, on verra justement après, on se plongera un peu dans la programmation et on verra que vous avez plein de choses et plein de films d'animation et d'autres aussi, des documentaires. Alors, tu as parlé avant de la nature et de l'environnement. Et vos films, ils sont différenciés entre les films nature et les films environnement. Et qu'est-ce qui différencie la nature de l'environnement ?
Alors oui, ils sont différenciés parce qu'on a un concours documentaire, on a un concours de films, parce que du coup, il n'y a pas que du documentaire justement, et on peut pas, c'est difficile de juger les films, parce qu'on a un jury qui est composé de 3 personnes, soit du milieu de l'audiovisuel ou du milieu nature. Et ce serait compliqué de juger, par exemple, un film sur l'aménagement du territoire et le comparer à un court-métrage ou à un film sur l'Islande. Parce que ça va vraiment être des thématiques très, très différentes. Et donc, on a fait une catégorie nature où là, effectivement, on va plutôt avoir des films qui vont parler soit de certaines espèces, soit de certains endroits qui sont hyper riches en biodiversité et qui vont porter un message hyper important, mais via souvent la beauté et la fragilité de la nature. Et par ailleurs, la catégorie environnement, elle va plutôt parler de ce que je mentionnais avant, de nos modes de consommation, en fait. De ce qu'on va manger, de comment est-ce qu'on se chauffe. Il y en a l'un cette année sur aussi la mode, le cimetière de la fast fashion. Donc l'idée, c'est de séparer pour le jury ces différentes catégories. Et on a aussi les courts-métrages, parce que on peut pas juger un film de 52 minutes comme un film de 13 minutes.
Oui, donc la partie environnement qui est plutôt centrée sur les activités humaines et l'impact qu'elles ont sur l'environnement, et avec la catégorie nature plutôt sur la biodiversité. Et toi, Luna, donc ta service civique, c'est quoi ton rôle dans ce festival? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles avec les bénévoles? C'est quoi tes missions exactement?
J'ai des missions très très variées. Déjà, vraiment, le focus de ma mission, c'est vraiment l'appui, en fait. L'appui à une sensibilisation, des enjeux environnementaux via l'art. Et je fais plein de choses. Je peux faire des missions très centrées sur la bureautique, donc par exemple refaire des tableaux Excel pour remettre des contacts, des nouveaux contacts, parce qu'on est toujours en recherche de contacts pour inviter des nouveaux gens, ou alors même tout simplement avoir des contacts pour au moment de la diffusion quand on fait du tract avec les bénévoles, etc. Donc je dirais que le début de ma mission, c'était vraiment centré sur de la bureautique, retravailler des choses, remettre au propre, etc. J'ai aussi, je suis passée un peu sur de la com, si je puis dire, par exemple, pour remettre à neuf aussi le site internet, parce que chaque édition, la programmation change, donc pour remettre tout correctement. Refaire des newsletters pour certaines fois. Et là, en ce moment, je suis vraiment sur des missions beaucoup plus sur le terrain, et je m'occupe en ce moment de bénévoles. Donc, il y a le côté assez challengeant de manager en quelque sorte les bénévoles, s'occuper de leur emploi du temps, voir quand ils sont dispo, répondre quand ils ne sont pas dispo, trouver des solutions. Et c'est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup.
Est-ce que c'est compliqué parfois de manager les bénévoles comme ça? Parce que ça peut pas toujours être simple.
Oui.
Parfois, il faut être pas trop directif, mais quand même un peu essayer de
c'est
les
ça.
Investir. Donc, comment tu t'en sors là-dedans?
Je pense que je m'en sors bien parce que j'arrive quand même à avoir un côté assez flexible, parce qu'il faut se rappeler que les bénévoles, c'est l'essence en fait d'un événement. Sans eux, on est... Je dirais pas qu'on est rien, mais quand même, sans eux, c'est une grosse part. Du coup, oui, il faut être assez flexible pour pouvoir leur donner des aides, parce qu'encore une fois, ils nous donnent de leur temps, de leur énergie. Mais à des moments, remettre le cadre, quand on peut pas faire des choses, c'est qu'on peut pas les faire. Et donc, c'est vrai que c'est justement, encore une fois, assez excitant, ce truc de pouvoir, d'avoir des moments, des petits soucis, parce qu'aussi, chaque bénévole est différent. Chaque bénévole, il y en a qui sont étudiants, des retraités. En fait, on a toute tranche de population, toute personnalité. Donc, c'est vrai que c'est un truc assez challengeant de pouvoir créer des binômes pour des missions, essayer de voir si ça matche bien, puis encore une fois, gérer les emplois du temps de certains, les problèmes, s'il y en a de certains qui viennent un jour, mais finalement qui ne pourront pas le lendemain. Donc je dirais que c'est les montagnes russes, quoi, en quelque sorte.
Ouais, et aussi faire la part des choses entre les préférences aussi de chacun, je pense, pour les missions, parce que est-ce que vous avez un peu plusieurs équipes de bénévoles, je ne sais pas. Certains qui sont plus centrés peut-être rédaction, d'autres qui sont plus centrés peut-être sur la communication des réseaux sociaux, je ne sais pas.
Oui, je dirais qu'on a plusieurs types de bénévoles en fonction des missions, mais en fait, si tu veux, on fonctionne un peu sur le premier arrivé, premier servi, dans le sens où on avait fait un événement début octobre, enfin fin octobre, qui s'appelait l'apéro bénévole, où on parlait justement du festival, des enjeux, de comment vont se passer l'émission, parce qu'on en a tellement que voilà, c'est en fonction encore une fois des disponibilités de chacun. Et on avait créé des feuilles, en fait, avec les événements à venir concernant le festival, les missions proposées, et après, chacun se notait en fonction de leur disponibilité. Donc, il y en a, par exemple, beaucoup qui sont notés durant le festival grand public, et ensuite, certains qui ne pouvaient pas, ou alors, finalement, il ne restait que des places sur, en ce moment, la diffusion ou sur le festival scolaire. Donc, je ne dirais pas que c'est nous qui faisons des groupes pour chaque mission, ça se fait un peu naturellement. Et oui, on essaye quand même que chacun puisse faire chaque mission. Et voilà.
Et ouais, je peux compléter en disant que, ben, en fait, il y a toute une partie dès le mois de février où il y a vraiment le comité de sélection qui est bénévole. Donc en fait, ouais, le festival, il a lieu fin novembre, mais en fait, il commence déjà en février quand on fait un appel, on lance l'appel à films. Et cette année, on a reçu 350. Et donc, il y a un groupe d'une quarantaine de bénévoles qui visionne les films pendant plusieurs mois et qui ensuite va faire une espèce de Tetris géant, parce que une fois ils jugent les films, enfin en tout cas ils choisissent les films à la fois sur la pertinence du message, il faut que ce soit cohérent avec les objectifs du festival, la qualité de l'image, la qualité du son. Enfin voilà, plein de petites choses, parce que bien sûr il faut que ce soit un film qui puisse être visionné dans une salle de cinéma, qui soit agréable à regarder par le public. Et on essaie de faire des catégories qui soient homogènes. Et ensuite il y a ce gros Tetris de mettre les films ensemble pour faire des séances qui soient cohérentes et trouver des intervenants, des invités pour chaque séance. Donc il y a cette partie des bénévoles qui sont vraiment le comité de sélection, sachant que si ça intéresse des gens, pour l'année prochaine, n'importe qui peut participer. Hein. On a des gens qui sont cinéphiles, mais pas que. Donc si vous êtes curieux ou curieuse de vivre cette expérience, n'hésitez pas à nous contacter. Et effectivement, après, pendant l'événement, il y a d'autres missions bénévoles comme la gestion de salle, donner les micros, accueillir les invités, gérer la buvette. Enfin voilà, il y a plein de choses, faire des photos, aider à la régie pour lancer les films. Et tout ça est encadré par les salariés et du coup, notamment ma collègue Marine qui est très occupée en ce moment. Voilà un petit peu le complément sur les activités bénévoles.
Oui, donc j'allais y venir à la programmation, mais du coup, t'as répondu à tout. Mais ouais, c'est la grosse partie, je pense, du boulot des bénévoles. Et cette programmation, elle est faite uniquement par eux ou vous intervenez aussi un petit peu dedans ?
Eh bien, elle est faite par eux et coordonnée par ma collègue Marine, qui a quand même un regard aussi. Moi, je visionne les films l'été. Notamment pour répondre aux interviews comme aujourd'hui, mais aussi vu que ça fait pratiquement 11-12 ans que je suis à l'association, je peux aussi dire tel sujet, attention, c'est peut-être touchy, il faut voir comment le film l'a traité, ou alors ça vraiment c'est un film qui est super bien, ça c'est descriptif aussi, c'est en lien avec l'émission de FNE. C'est bien raccord avec notre ADN. Donc, quand on a un doute, quand ils ont un doute, en gros, on en parle. Mais oui, c'est assez rare que vraiment il y ait conflit sur un film. Pour avoir déjà participé à la sélection quelques années auparavant, les films qui sortent du lot, on les voit quand même assez vite. Il y a des coups de cœur aussi, et chacun discute de son coup de cœur dans le comité. Ça reste un truc quand même démocratique, le choix, avec beaucoup d'échanges. Et l'idée, c'est d'avoir une programmation qui fait consensus.
Oui, et en parlant de cette programmation et de vos films, on va écouter le teaser du film qui va faire la soirée d'ouverture et qui s'appelle « À l'affût au loup ».
Ça va être intéressant de pouvoir comparer nos deux regards. Ça, c'est possible que quand on reste longtemps et que les animaux sont en confiance. Et à partir de là, on voit tout un tas de comportements de leur vie qu'on ne pourrait pas voir autrement.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter le teaser du film À l'affût au loup qui va passer pour la soirée d'ouverture du Festival du cinéma nature et environnement de 17h à 20h le dimanche 24 novembre. Et en parlant de ce festival, on est avec Marion qui est responsable du pôle communication et événementiel à France Nature Environnement, ISER, qui est l'association portant ce festival, et Luna qui est service civique pour ce festival. Alors, concernant cette soirée d'ouverture, je voulais te demander, Marion, pourquoi avoir choisi de commencer sur un film qui parle des loups, parce que c'est quand même un thème très spécifique.
Alors, le hasard fait que ça fait quand même plusieurs années qu'on a le loup dans nos films d'ouverture. Dans ce film « L'affût au loup », effectivement, donc sans spoiler, il y a des loups. Mais on va aussi voir d'autres grands prédateurs et d'autres espèces. Parce que souvent, quand on a des prédateurs, si les prédateurs sont là, il y a plein d'autres espèces qu'on peut voir. Et effectivement, le loup est quand même une espèce qui est très emblématique parce qu'il y a... beaucoup de peur qui s'est développée au fil des années. Enfin voilà, c'est quelque chose. Enfin c'est une des espèces qui est la plus présente, je pense, dans nos imaginaires quand on pense aux grands prédateurs. Je pense surtout à ici parce que l'ours n'est pas présent dans les Alpes et qu'ici on va dire que c'est aussi un sujet qui est assez clivant. Donc voilà, l'idée c'était de montrer, ce film montre des comportements et une famille de loups à travers les saisons, avec aussi du coup plein d'autres espèces, mais surtout ce film il parle d'affût. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, en tout cas, ce qui m'a plu, c'est qu'on voit combien, en fait, c'est difficile de voir la faune sauvage. Et que nous, les êtres humains, on a l'habitude de faire plein de bruit, de vraiment pas être discret quand on n'a pas l'habitude. Et face à des espèces qui ont un sens de l'ouïe qui est très développé, un odorat aussi, ça demande vraiment beaucoup de patience, de sens de l'observation. Et c'est ça qui est assez beau dans ce film, même si c'est des conditions d'affût qui sont particulières. Un photographe et un peintre qui étaient à l'intérieur, c'est pas de l'affût vraiment en extérieur où on s'est mis derrière une protection qui nous invisibilise en fait, pas, et voilà, on se met dans la bonne, enfin dans une certaine direction par rapport au vent pour pas se faire repérer. Là ce film il va parler de ça, mais c'est surtout aussi c'est mêler le film avec l'aspect photographie, parce que les photos sont très belles, et aussi avec l'aspect aquarelle. Donc moi, je trouve que ce film, il est vraiment emblématique du festival parce qu'il rejoint l'aspect nature et l'aspect culture. Et donc, on va avoir le protagoniste du film, le peintre aquarelliste Yves Fagnard, qui sera avec nous à l'issue de la projection, pour échanger avec le public et montrer ses œuvres et faire dédicacer ses livres. Donc ça va être hyper chouette parce que c'est vraiment pas évident de dessiner des animaux, enfin dessiner la flore, une flore qui ne bouge pas, c'est un peu plus simple, quoique un petit coup de vent et la fleur que tu es en train de dessiner, ben, tu n'arrives plus à saisir la forme, etc. Mais alors, dessiner de la faune sauvage comme ça, c'est, moi je trouve ça vraiment extraordinaire son travail.
Oui, c'est un film qui doit être très impressionnant parce que c'est aussi une espèce qui est très impressionnante. Et y a justement eu une décision du Conseil de l'Union européenne sur le loup qui a affaibli son niveau de protection. Je ne sais pas si tu as vu. En gros, c'est passé d'une espèce strictement protégée à une espèce protégée. Donc je me demandais, est-ce que ça a aussi un lien avec ça, de commencer la soirée d'ouverture avec ce film, un peu pour peut-être pas dénoncer, mais pour mettre en valeur cette espèce?
En tout cas, FNE a toujours été... a fait référence sur la thématique du loup. Donc en fait, là, à cette soirée, justement, il y aura notre référent loup qui sera en co-animation en fait, avec, au moment de l'échange avec Yves Fagnard. Donc pour toutes les personnes qui ont des questions à poser sur le loup, ça peut aussi être un moment intéressant. Mais c'est un sujet qu'on lâche jamais, hein, vu qu'on fait partie des, comme je disais, en fait, des commissions départementales qui décident de ce qui se passe avec la faune sauvage en Isère. Nous, c'est vraiment juste en Isère. Mais effectivement, c'est un sujet qui est porté par FNE et nous, on essaie de le porter pas que d'un point de vue militant, mais d'un point de vue scientifique également.
Et pendant ce film, on suit un peu l'équipe de tournage, et donc notamment le photographe et l'aquarelliste. Et on va voir le loup, forcément, dans ce film. Et c'est très dur de s'approcher une meute de loup. Enfin, je pense que c'est tout un travail, et ça demande des mois, le temps que la meute nous accepte aussi. Alors, est-ce que tu sais tout le travail qu'ils ont eu pour mettre les loups un peu en confiance ? Comment est-ce qu'ils ont fait ?
Eh ben, en fait, déjà, c'est surtout d'être très, très, très discret. Là, c'est un affût, donc c'est vraiment une cabane. Donc, j'imagine que, il faut pas sortir toutes les deux minutes de la cabane. Après, les loups savent que, les loups sont, c'est pas les seules personnes qui vont dans cet affût, je pense. De fait, les animaux ont conscience qu'il doit quand même y avoir des humains et que ces humains sont pas source de danger. Après, c'est surtout énormément de patience. Parce que ce que vous verrez dans le film, c'est que des fois, on est là pour des jours et des jours. Et c'est souvent le cas quand on va dans la nature. En fait, on se dit peut-être que je vais voir ça. Nous, parfois, on fait des sorties sur le brame du cerf ou pour aller voir des bouquetins. On n'est jamais sûr à 100% qu'on va voir ce qu'on pensait voir. Et c'est aussi ça, la beauté de la nature. C'est l'observation et c'est pas prévu. Des fois, on va se taper un temps pourri, mais ça fait une ambiance qui est super chouette. Et souvent, j'ai un de mes collègues qui dit que quand il pleut, c'est souvent là où on fait on a des bonnes surprises parce que la pluie va faire retomber un peu les odeurs. On est souvent un petit peu plus discret parce qu'on va moins fanfaronner quand il fait pas beau. Et parfois, on peut avoir une rencontre fugace avec une espèce. Et moi, je trouve que ce film, il est beau par rapport à ça parce qu'il montre... la patience, des fois la frustration, on le voit bien avec les aquarelles, on va capter vraiment l'essence du lieu et avec la photo aussi. Et il y a des photos qui sont super belles alors que c'est pas le grand soleil.
Oui, mais c'est ça, c'est cette attente et cette frustration qui rend le moment finalement encore plus magique quand ça arrive. Bon, je vais pas poser plus de questions sur ce sujet, même si j'en ai encore plein, mais on va pas raconter tout le film, on vous laisse y aller dimanche 24 novembre à 17h. Et donc, votre festival, ça aborde vraiment plein d'aspects du changement climatique, de la nature, de l'environnement. Et donc, vous avez des thèmes très variés. On voit que là, il y a les loups, mais il y a aussi l'industrie, comme tu as dit avant, et aussi l'aménagement des territoires de montagne. Et donc, ce thème, c'est le mardi 26 novembre, c'est ça. Et ça commence avec un film d'animation. Donc, tu nous parlais avant des films d'animation. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce film qui s'appelle La Pâquerette Raclette?
Ah oui, Pâquerette Raclette. C'est un petit film d'animation court. Et en fait, en haut d'une montagne, il y a une seule petite fleur qui s'appelle la Pâquerette Raclette. Et sans spoiler du coup le petit film d'animation, les touristes prennent un petit peu d'assaut cette montagne pour voir cette fameuse Pâquerette Raclette. Et c'est un film qui parle du tourisme de masse, surtout dans les montagnes, on le voit bien ici, qui sont vraiment des milieux très fragiles, encore plus avec le réchauffement climatique. Et que ça pose toute cette question de l'accès à la nature. Enfin, on n'a pas les bonnes réponses, quoi. Mais il n'y en a pas vraiment de bonnes réponses. Mais en tout cas, ça pose cette question-là du tourisme de masse. Qu'est-ce qu'on fait
Et c'est un film qui semble très simpliste au premier abord, mais je pense qu'il y avait finalement plein de significations aussi, si on creuse un peu. Ça me fait un peu penser au Petit Prince de Saint-Exupéry. Et ensuite, cette soirée, elle continue avec le film La Poudre aux yeux, qui là, étudie vraiment le sujet plus profondément. Quels enjeux spécifiques se jouent dans ces territoires de montagne, justement en lien avec le tourisme?
Dans le film, c'est un film qui parle de projets d'aménagement qui ont eu lieu ou en tout cas étaient en projet en Haute-Savoie. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on voit aussi intervenir différentes associations, dont nos amis de FNE 74. Et du coup, comme souvent, il va y avoir de l'aménagement concernant des activités humaines. Et c'est souvent en rapport avec l'eau, c'est-à-dire des zones humides qu'on veut bétonner pour construire des stations, soit de ski de fond, des équipements VTT ou des logements. Donc c'est ça, l'impact, c'est vraiment la destruction d'espaces naturels et encore plus important parce que c'est des zones humides et qui des fois sont protégées par certaines lois. Il y a aussi un autre projet qui concernait la destruction d'un bois et du coup c'est un projet qui montre bien deux aspects de la lutte environnementale, c'est-à-dire les associations qui sont plutôt légalistes et qui vont intervenir sur le terrain juridique, et du coup d'autres moyens de mobilisation plus sur le terrain. Donc là, on a la création d'une zone à défendre, d'une ZAD, et qui en fait, dans ce cas-là, a permis de stopper les travaux en attendant que... Parce que la justice, parfois, a une temporalité qui fait que ça prend un peu de temps. Et donc, là, on voit les différents aspects de la lutte environnementale. J'en dis pas trop plus pour garder un peu le suspense. Il y avait un dernier projet qui concernait un vélodrome. Et donc, finalement... on parle de biodiversité, de destruction d'habitat naturel, mais on parle aussi dans ce film d'argent public, en fait, de finalement qu'est-ce qu'on veut faire, nous, dans nos territoires, pour le bien-être des gens. Et on se rend compte que des fois, on veut faire des énormes aménagements alors que les citoyens au niveau local, ils ont besoin de pistes cyclables, de transports en commun. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que il parle quand même de ce qu'on fait à FNE Isère, donc dans notre assoce, tous les jours, en fait. Et que c'est des sujets qui font pas le buzz. Mais quand on a un projet d'aménagement comme ça, ben, vous le verrez dans le film, il faut éplucher des dossiers, il faut des bénévoles qui sont là tout le temps, il faut faire des actions, des fois des actions coup de poing, et que ben, ça, en fait, c'est hyper important. Et c'est ça qui permet que nos territoires ne soient pas suraménagés, bétonnés, pour parfois des intérêts privés, ou parfois c'est quand même du public, mais les habitants auraient besoin d'autre chose.
Oui, et je pense qu'il rend ce film très intéressant, c'est qu'il est surtout transversal, parce qu'il aborde à la fois la vie des associations, des militants, comme tu as dit, mais aussi surtout des élus politiques, qui eux ont aussi les intérêts économiques qui rentrent en jeu. Et il se passe où, de nouveau, ce film ? C'est dans les Alpes ?
Ouais, c'est vraiment sur le département de la Haute-Savoie. J'ai plus les villes en tête et les zones, parce que moi, je suis iséroise, donc je connais pas toute la Haute-Savoie. Mais en tout cas, c'est un chouette film, parce que c'est un film qui est local. Et vu qu'on a des films internationaux, qu'on a des choses qui se passent en Inde... un peu de partout, en France, en Bretagne, mais là, c'est notre soirée locale, et c'est un film qui donne la pêche, en fait. Je pense que c'est un film qui donne envie de se mobiliser, parce que là, on voit des associations, mais les associations, c'est des citoyens, et puis d'ailleurs, il n'y a pas que des associations qui interviennent, il y a des collectifs moins formels, quoi.
Oui, donc un film qui montre vraiment la montagne et sa transition. Et pour en revenir au petit film d'animation, je voulais juste demander pourquoi intégrer des films d'animation comme ça. Est-ce que c'est aussi pour attirer peut-être un public plus jeune, ou c'est pour aborder le thème différemment ?
Eh bien, les deux. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les films d'animation, c'est que, en fait, souvent, c'est des films qui sont assez courts. Et du coup, le message doit être hyper percutant pour être efficace. Et il y a vraiment ce travail graphique derrière qu'on trouve magnifique. En fait, souvent, c'est différentes techniques d'animation. Moi, je ne suis pas professionnelle là-dedans. Mais en tout cas, dans le festival, il y a plein de beautés graphiques différentes dans les films d'animation. En général, ils font soit entre quelques minutes, soit... une dizaine de minutes, je pense. Et en fait, souvent, parfois, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais tout passe par l'image. Et du coup, il y a vraiment une émotion qui se crée, je trouve, avec l'animation. Et en vrai, moi, c'est un peu mes coups de cœur cette année, les films d'animation. Je pense à Pie dans l'eau, qui parle d'une marée noire, mais qui est hyper joli. Je pense aussi à un super film d'animation qui s'appelle « Au huitième jour » et qui a été réalisé par des jeunes dans le cadre de leur école d'animation. Et moi, ça m'a vraiment coupé le souffle. J'en ai pleuré à la fin quand j'ai visionné le film. Donc pour moi, c'est ça. Souvent, je trouve que dans le documentaire, je vais être plus sensible à l'apport des connaissances, etc. Mais dans les films d'animation, comme pour les films expérimentaux, je me laisse vraiment embarquer. Et c'est plus l'émotionnel ça vient toucher plus l'émotionnel chez les gens, et je pense, chez moi, mais aussi chez le public.
Il y a vraiment un aspect poétique, finalement, dans les films d'animation, et qui fait aussi un peu plus réfléchir d'une autre manière. Donc, Pie dans l'eau, qui est le mercredi 27 novembre, et la pâquerette raclette le mardi 26 novembre. Et en parlant de poésie, on va un peu écouter de musique avec la musique SOS de Will.i.am. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and watching the world.
People killing, people dying, people lying, people blind. People don't see the sign, watching money all the time. Get the pennies, get the dimes, get the dollars is the mind. State of the human race, people on a paper chase. The environment is fragile, and we've been on the gradual. Declining in a lifetime, or lose the battle. Get burned by volcanoes, get blown by tornadoes. Cause Mother Nature signals, is trying to warn NATO. We got a new terror threat, it's called the weather. More deadlier than chemical and nuclear together. It's hotter in the winter, even hotter in the summer. Jesus or Buddha, somebody come and help us out.
Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around in the marginal world. Changing. Open up your eyes, you can see things rearranging. The world is dying. And if they say it's gonna be alright, then people are lying.
People trapped behind the gates, ignorance in a state of mind. Cause they formulate a plan just to penetrate us. You see, they stimulate us with fear, manipulate us. Each year they dominate, dividing us like calculators. And we can't add it up cause calculators do the math for us. And here they come chopping down the rainforest. Fucking up our air for us, they don't really care for us. And we can't complain because the only one to blame is us. The gas is rising up, but we keep on filling up. CO2 levels got the whole planet heated up. It's blazing in the winter, even hotter in the summer. Muhammad, Jehovah, somebody come and help us out.
Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looks like we ain't gonna figure it out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and watching the world changing. Open up your eyes, you can see things rearranging. The world.
When an Eskimo gets bit by a mosquito, somebody in Miami will get swept by a tsunami. Rastas in Jamaica will get hit by a quake that registers something like 8.8. You see, a situation's happening with our planet. Cause 20 years ago, we took it for granted. We should've took advantage and reversed the damage. Instead of just pumping and selling and slanging the gas. And while we purchased the gas, we was watching soap operas while they steady brainwashed the masses. Cause they could make a vehicle that runs off ashes. But they don't own a patent for that, and that's exactly what's happening. Corruption and bullshit politics. The planet's gonna die cause of bullshit politics. It's hotter in the winter, even hotter in the summer. And ain't nobody coming to the rescue to help the help the help the
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8. Vous venez d'écouter la musique SOS de Will.i.am qui dénonce l'impact des activités humaines sur la planète. Et pour ceux qui prennent le train en route, on est aujourd'hui avec Marion et Luna. Donc Luna qui est service civique pour le Festival du cinéma Nature et Environnement qui est porté par l'association France Nature Environnement Isère. Donc Marion, qui est responsable du pôle communication et événementiel dans cette association. Donc on vient d'écouter une musique, la musique qui est faite pour danser. Et en parlant de danse, on a un court-métrage cette année à ce festival qui mélange la danse et la thématique de l'environnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce court-métrage Hubris ?
Eh ben, Hubris, il fait partie de donc, la soirée du lundi 25 novembre, qui est un programme juste de court-métrage. Et moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur cette année, parce que c'est très très rare qu'on ait de la danse en fait, dans les films. Et c'est un film expérimental. En général, moi, des fois, je ne comprends pas tout dans les films expérimentaux. Et là, vraiment...
Ben, en fait, on va suivre plusieurs personnes dans des environnements, dans des métiers différents. Et en fait, d'un coup, quelque chose se passe et il n'y a pas de dialogue. Et les corps vont se mettre à danser avec une musique. Mais alors, mais vraiment, je l'ai trouvée hyper raccord. Je l'ai trouvée vraiment hyper belle. Et bah, le film est quand même assez long. Je crois que c'était au moins plus d'une vingtaine de minutes. Et ouais, j'étais hyper émue en regardant ce film. Et ça fait quand même, bah, comme je disais, pour l'ouverture, on fait le lien entre nature, environnement, cinéma, et puis bah, photo et aquarelle. Et là, on fait le lien avec une autre discipline artistique qui est la danse. Et pour moi, on a vraiment bah, ce mélange nature-culture qu'on veut montrer en fait, à l'écran.
Donc vous avez croisé vraiment tous les thèmes à travers ce film. Et donc, il n'y a pas du tout de parole dans ce film. C'est vraiment comme une méditation un peu tout le long.
Ben, c'est ça. En fait, tout le mouvement dans bah, les mouvements de ces personnages, ça va raconter une histoire. Donc, tout est hyper expressif dans un décor qui est plutôt industriel. Et bah, on va voir différents types de danse, différents types de personnes. Et bah, tout ça nous conduit jusqu'à la fin, où on comprend pourquoi tout s'est déroulé ainsi. Et j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'il était aussi inclusif, en fait. Y a aussi des personnes racisées dans ce film. Et souvent, bah, on se rend compte que dans les films, il y a beaucoup de personnes blanches, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper chouette qu'il y ait des personnages, qu'il y ait une diversité dans les personnages.
Et donc, un film qui est très bien construit, incisif et percutant. Et donc, on a écouté une musique avant où donc Will I Am, il disait « The gas is rising up, but we keep on filling up ». Donc, le gaz monte, mais on continue de faire le plein. Et ça dénonce bien les énergies fossiles, qui est un de votre thème du festival, celui du mercredi 27 novembre. Donc, les énergies fossiles, leur extraction, elle est très dévastatrice pour la planète, évidemment. Et elle participe au dérèglement climatique. Et il y a notamment un film qui est aussi assez transversal, qui est Gaz russe, la dernière route des nénettes, et qui croise le thème de cette extraction des énergies fossiles avec les conséquences sur un peuple indigène de Russie, en Sibérie, donc les nénettes. Alors, quel est le lien entre ces populations nomades et l'industrie des énergies fossiles ?
Eh ben, le lien, c'est que du coup, le peuple nénette, il est là depuis des générations, des centaines d'années. Il vit de l'élevage de rennes. Et donc, ben, le but est de faire du coup, ben, migrer les rennes en fonction de la saison d'hiver et de la saison d'été. Et donc, ils ont finalement leur propre route, ces chemins. En fait, c'est vraiment un peuple nomade. Donc, ils sont toujours en mouvement pour faire cet élevage de rennes. Et en fait, avec le changement climatique et le permafrost qui dégèle, il y a des énergies en fait, qui peuvent être, en fait, dont l'accès va être facilité. Et l'extraction du gaz va prendre de plus en plus de place dans ces territoires, va gêner la migration et va gêner en fait complètement leur mode de vie. Et c'est aussi, y a aussi la question de comment ce peuple vit de cet élevage de rennes, parce que comme on peut avoir ben, le même problème ici avec les paysans, le prix du lait, etc., et ben, eux, ils ont aussi un prix subventionné, entre guillemets, pour cet élevage qui est vraiment, qui est traditionnel, en fait, et qui ne peut pas être en concurrence avec, avec d'autres types de viande, par exemple. Et donc ça croise vraiment plusieurs, l'aspect environnemental, mais bah aussi humain et économique, parce que bah, le gaz, c'est un énorme business. Donc C'est un film qui a des très belles images, mais qui a une dimension humaine qui est très forte. Et je trouve qu'il est bien, il est très bien raconté.
Oui, parce qu'il montre finalement que cette extraction des énergies fossiles, elle n'a pas que des conséquences sur la nature, sur les animaux, mais aussi finalement sur les humains. Donc c'est les humains qui détruisent un peu les autres humains, enfin pour faire simple. Et oui, et d'ailleurs, ce peuple nomade, c'est pas le seul à être touché de ça. Il y a aussi toutes les populations nomades, les Samis en Norvège, en Finlande, en Suède. Il y a aussi une partie en Russie. Donc c'est souvent les populations qui sont finalement les premières touchées par ces exploitations gazières, pétrolières ou même électriques, parce que ça détruit les territoires où elles habitent, et elles ont besoin d'avoir une biodiversité équilibrée parce qu'elles se servent de ces ressources naturelles. Et donc en parlant de ces territoires qui sont très très froids, vous avez aussi une soirée le vendredi 29 novembre sur le thème de l'Arctique. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il y aura au programme de cette soirée ?
Oui, c'est marrant parce que pour cette édition, on a eu beaucoup de films qui se passent justement dans les glaces, quoi. Et je pense que vu que c'est des milieux qui sont encore plus impactés, c'est visible vraiment dès maintenant le changement climatique, on a reçu pas mal de... Enfin, vous verrez à l'écran pas mal de films sur ça. Et donc, cette soirée et surtout le film Trésor de l'Arctique... Elle se passe en Norvège, et là aussi on va avoir un personnage qui est assez atypique. Donc c'est un champion d'apnée qui s'appelle Arthur Guérin-Bory et qui est entre guillemets à la retraite maintenant, mais qui va se prêter au jeu d'aller plonger en fait dans les fjords de Norvège où il y a une algue particulière qui est super belle. Et ça va être tout le film tourne autour de ça. C'est des eaux qui sont très froides, donc c'est un peu le challenge quand même d'aller plonger. Il fait tout noir hein, à ce moment-là, on voit rien.
Je confirme, les eaux sont très froides. J'y étais pendant un an, donc je peux confirmer qu'on n'y va pas pendant des heures.
Oui, on n'y va pas comme ça, ouais. Et du coup, on va aussi voir d'autres espèces marines. Donc, on va avoir aussi des baleines, des orques, tout ça. Donc, c'est aussi un beau film parce que y a des super belles images, mais l'aspect environnemental et à propos du changement climatique est aussi traité, et de comment aussi les scientifiques et comment les scientifiques se saisissent aussi de la question. Donc c'est un film qui allie, qui donne la parole à la fois à des scientifiques, à un champion de plongée qui, on va dire, il a eu, c'est un pratiquant, lui du coup pas que dans son loisir vu qu'il a été professionnel. Mais ça donne vraiment à voir aussi, nous on peut faire des parallèles de ici dans le milieu montagnard, ce qu'on, en tant que pratiquant de montagne, comment être attentif à ça, aux espèces et au changement climatique. Et donc voilà, là on le voit vraiment en terre nordique, mais c'est un très joli film avec une partie sur terre et une partie sous la mer, donc c'est très sympa.
Magnifique. Et vous avez aussi vous avez aussi pour but d'inclure une population plus jeune dans le combat avec votre soirée palmarès et coup de cœur, avec le documentaire À l'école du climat, donc le samedi 30 novembre de 19h30 à 22h. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre le climat il est traité dans ce documentaire ?
Eh bien, ce documentaire, il est... En fait, il reflète vraiment une des missions super importantes de FNE Isère, c'est l'éducation en fait à l'environnement. Et en fait, ce qu'on voit dans ce film, c'est comment est-ce qu'on parle de climat aux enfants, qui sont en fait les générations futures, et comment est-ce qu'on en parle en classe.
Pour comparaison, moi j'ai 35 ans, je le dis. Et du coup, on ne parlait pas trop de climat dans nos cours de SVT et on n'en parlait pas non plus à l'école primaire. Et ça, c'est un enjeu qui est vraiment crucial, qu'en fait les enfants s'approprient les différents concepts, de comprendre comment fonctionne le vivant, comment est-ce qu'il est impacté par le changement climatique et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire. Et vraiment, le film, il nous emmène dans les classes avec des instituteurs et des institutrices qui vont mettre en place une réflexion avec les enfants. Donc, des fois, on a des choses en classe, mais il y a aussi une réflexion autour de l'école, du dehors. Comment est-ce qu'on va apprendre en étant vraiment au contact de la nature. Donc, ça, c'est une réflexion qui est hyper intéressante, vu que le système français est quand même beaucoup tourné vers l'enseignement en salle. Donc voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touchée parce que ça m'a donné espoir, même si pour l'instant j'ai pas d'enfants, mais en fait de voir ce que des personnes commencent à mettre en place dans le système éducatif, je me dis peut-être que les futures générations envisageront leur comportement quotidien autrement, sûrement que ça donnera à des enfants l'envie de faire des métiers, donc qui passeront 35 heures, comme moi aujourd'hui, à être dans la protection de la nature et de l'environnement. Donc j'ai trouvé que c'était un chouette film pour clore la partie concours du festival. Et en plus, c'est le coup de cœur du comité de sélection.
Oui, donc ça montre en plus l'importance d'intégrer et d'éduquer dès le plus jeune âge à cette thématique pour qu'ensuite ça aille un peu mieux, dans l'espoir. Cette émission, elle touche à sa fin. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur la programmation, vous avez le super site qui a été fait par Luna, la service civique, qui est avec nous. Donc, merci les filles d'avoir répondu présente. Et on rappelle que le Festival du cinéma Nature et Environnement, il est du 24 novembre au 1er décembre. Donc, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a une très chouette programmation. Et on vous laisse sur une dernière musique qui s'appelle Si Madame Nature a les nerfs, de Louis Chédid. Et on remercie aujourd'hui Oscar qui était à la technique.
Ça swing sur le plancher des vaches, dégueulasse. Le temps qu'il fait, les portes claquent, les volets tremblent, les tuiles dégringolent. On se croirait en novembre, volatile, quadrupède, fond le gros dos, immobile dans la pinette. Faut dire qu'au niveau météo, tout fout le camp. Depuis quelque temps, des précipitations inédites, inondations historiques. Pour la fonction publique, EDF, chemin de fer, France Télécom, R Inter, c'est l'enfer. Si Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir, qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. Faut dire tous ces cargos qui dégazent, ces forêts qu'on ratiboise, elle doit trouver sa nasse. C'est vrai qu'on la traite comme des rustres, que depuis l'illustre, ça fait une sacrée ardoise. Détergent, hydrocarbures, déchets nucléaires, c'est sûr, ça peut déplaire. Si Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir, qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. C'est qu'elle a ses raisons. C'est qu'elle a ses raisons.
Et c'était quoi?
L'apérophonie.
Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie.
C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.